Alors, nous allons maintenant ouvrir la discussion. S'il y a des questions ou des interventions, il vous suffit de lever la main et des camarades apporteront un micro.
Depuis l'éclatement de l'Union soviétique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de guerre nucléaire avec l'éparpillement des armes nucléaires dans les différents États? Et ceux qui l'ont déjà, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, et qui encore, je crois, l'Inde et le Pakistan.
Oui, bonsoir. J'ai beaucoup apprécié l'exposé qui a fait le tour d'un sujet très vaste. Mais justement, il est tellement vaste qu'il y a certains aspects qui ont été soit seulement effleurés, soit complètement négligés. Donc, je vais demander des précisions sur ce sujet-là où je suis un peu resté sur ma faim. Alors, le premier... C'est peut-être que j'étais inattentif, je ne sais pas, mais le moment où la place à l'ONU a été attribuée à Pékin plutôt qu'à Taipei, j'ai l'impression que le camarade est passé un peu vite. J'ai pas retrouvé tous les éléments qui ont conduit à ce changement politique au niveau donc de l'ONU. Deuxième point, les conflits qu'il y a eu entre la Chine et l'Inde. Il me semble qu'il y a eu plusieurs affrontements armés. Bon, ça n'a pas eu de conséquences très importantes, mais enfin, c'est une époque qui, je pense, mérite d'être un petit peu analysée, parce que ça se passe... dans une région très, très montagneuse, hein, l'Himalaya, etc. Mais c'est, à l'époque, il y avait dans beaucoup de milieux une concurrence entre l'expérience chinoise et l'expérience indienne. La chinoise étant supposée totalitaire, l'indienne démocratique, etc. Bon, vu l'évolution récente de l'Inde, la démocratie, on n'en parle plus beaucoup dans ce pays-là. Autre chose, le camarade a parlé vraiment très brièvement du Tibet et des Ouïghours. Ça a été évoqué les deux dans une même phrase qui parlait en fait pas uniquement de ça mais d'autres choses. Je crois qu'il faudrait en dire quelques mots parce que c'était des problèmes graves qui se passent dans ces pays-là. Et puis, oui, deux autres choses encore. La démographie, c'est quand même un élément important au niveau planétaire. Les problèmes démographiques ont leur importance. Je ne pense pas qu'ils soient déterminants, ce n'est pas la cause des problèmes, etc. Mais parfois, ça les aggrave. Et la Chine a eu une politique originale, mais qu'on peut critiquer d'une certaine mesure, celle de l'enfant unique, bon, qui maintenant est révolue. Mais ça vaudrait quand même en dire quelques mots. Et puis, la gestion du zéro Covid, hein, qui là aussi est révolue depuis quelques semaines, mais qui mérite, à mon avis, qu'on en parle un peu plus. Merci beaucoup.
C'est peut-être hors sujet, donc s'il y a beaucoup de questions, on passe. Mais comment ça se fait que le maoïsme, ici, dans certaines années a pris de l'importance? Parce que quand même ce que tu nous as raconté de ce que disait Mao en 45, ça faisait pas rêver tellement. Donc, je comprends pas pourquoi il y a eu une génération de militants maoïstes comme ça, alors j'aimerais bien comprendre ça. Voilà, c'est tout.
Camarade, merci pour l'exposé, mais moi j'ai vraiment une question très concrète. Si demain il y a la guerre entre la Chine et les États-Unis, alors j'ai très bien compris qu'on est dans le camp de la Chine face à l'impérialisme américain, mais on dit quoi au prolétariat chinois en fait? Non, parce que le gouvernement chinois il va dire au prolétaire chinois vous vous battez pour la patrie, quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit? Enfin, est-ce qu'on est pour le défaitisme révolutionnaire en Chine ou est-ce qu'on est pour défense nationale face à l'impérialisme américain? Enfin, je sais pas, je vois pas. Là, je comprends rien. Donc, je sais pas quel est ton avis. Voilà.
Est-ce que aussi il y aurait une petite différence entre la presse américaine et française sur le sujet de la France-Afrique et le fait que, du coup, On parle beaucoup de l'incursion économique de la Chine en Afrique. Est-ce qu'il y a juste une différence aussi entre États-Unis et France là-dessus, et dans la critique qu'on peut faire de la Chine dans les presses qu'on a? Bref, voilà, c'est tout.
Ok, merci. Ben, je te laisse répondre. Merci.
Bon. Bon, pour la dernière question, je ne sais pas. Donc, je sais pas. Je vais peut-être surtout répondre à nous. Notre camp, c'est le camp de la classe ouvrière. Et les ouvriers chinois, eh ben, ils ont à lutter contre leur bourgeoisie, et ils ont aussi à lutter contre l'impérialisme et ses conséquences. Et il faudra lutter contre les deux, parce que c'est pas en se rangeant derrière une bourgeoisie qu'on s'en sort. Justement, toute l'histoire de la Chine, elle montre ça. C'est que quand Staline a forcé les ouvriers communistes à se mettre derrière le Kuomintang sous prétexte que la révolution elle était bourgeoise et qu'il fallait d'abord mettre dehors l'impérialisme, eh bien c'est là que la classe ouvrière, elle s'est retrouvée massacrée et qu'elle s'est retrouvée défaite. Alors nous, notre camp, c'est le camp de la classe ouvrière, et on pense que les travailleurs, les ouvriers de Chine et ceux d'ici et ceux des États-Unis, eh bien, ils forment une même classe internationale qui doit avoir le même objectif, celui de renverser la bourgeoisie partout sur la planète. Ce qui ne nous empêche pas de voir que toute la situation est quand même liée à ce qu'est l'impérialisme. Mais justement, c'est là où la responsabilité... elle nous incombe aussi. Nous, on milite dans des pays impérialistes, riches. Eh bien, on doit d'autant plus militer à cette échelle-là, à ce niveau-là, parce que c'est ces pays aussi, c'est aussi dans nos pays, enfin, c'est surtout dans nos pays qu'il faut renverser l'impérialisme si on veut sortir l'humanité de la barbarie du capitalisme. Parce que la guerre, et même la guerre nucléaire, ça date pas de la disparition de l'URSS, la menace. C'est l'impérialisme, bah, il produit des armes, et puis à un moment, il les utilise ou il les utilise pas, mais c'est depuis toujours. La crise de Cuba en 1962, on était à deux pas de l'incident nucléaire, et puis c'est toute l'histoire du capitalisme, hein, ça se termine en conflit, en massacre, parce que c'est la lutte pour la domination du monde. Et ce n'est pas simplement la disparition de l'URSS qui nous mène à la situation qu'on a aujourd'hui. Pour l'ONU, je l'ai dit dans le topo, mais ce sont les États-Unis qui ont changé d'attitude, qui ont abandonné l'embargo en 1972 et qui ont redonné la place à l'ONU à Pékin. Mais ils l'ont fait parce que c'était un échange de bons procédés, parce qu'ils avaient besoin de la Chine pour finir la guerre du Vietnam sans que ça déclenche des révolutions dans d'autres pays ou des soulèvements dans d'autres pays de la région. Donc c'est bien les États-Unis qui sont à la manœuvre depuis 70 ans. C'est eux qui ont pratiqué l'embargo, c'est eux qui ont pratiqué l'ouverture, et puis depuis maintenant 15 ans, c'est eux qui pratiquent l'endiguement et qui accroissent la pression militaire, diplomatique, économique sur la Chine. Alors, j'ai pas parlé des affrontements, c'est vrai, entre l'Inde et la Chine, mais alors c'est pas le passé. Hein. Il y a un an ou deux, il y a eu des affrontements dans l'Himalaya, là, à une frontière entre la Chine et l'Inde, et ça continue. Bah, c'est deux États bourgeois qui se disputent les zones d'influence, qui montrent les muscles régulièrement les uns aux autres, et ça continue, et puis ça continuera parce que. C'est comme ça qu'est organisée la société capitaliste moderne. Voilà. Alors pour le maoïsme et la, écoutez, ben moi alors je suis pas le mieux placé pour discuter de ça, mais bon, peut-être que dans les années 60, c'était le maoïsme, ça a offert une solution à des jeunes qui voulaient critiquer l'Union soviétique, le stalinisme, mais qui restait sur une voie nationaliste, sur une voie qui n'allait pas jusqu'au bout. Alors peut-être que c'est ça qui a fait leur audience à l'époque, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les idées maoïstes qui sont restées là, parce qu'en fait, c'est une voie nationaliste, les idées maoïstes. Il faut au contraire reprendre le drapeau de la révolution ouvrière, de la révolution prolétarienne. Et ceux qui se sont affrontés de façon la plus conséquente au stalinisme, c'est les trotskistes. Et c'est ce combat qu'il faut continuer au nom des idées communistes révolutionnaires. Alors, les Tibets, les Ouïghours, bon, écoutez, je n'ai pas développé. Alors, d'abord parce que. Enfin, il y a plusieurs aspects contradictoires. Il y a la Chine, c'est une dictature. C'est un État bourgeois, une dictature politique, et qui maintient une oppression, qui tient aussi la population en esclavage, oui. Et les Ouïghours et les Tibétains, comme dans tous les pays, dans toutes les sociétés bourgeoises, ces minorités nationales, elles prennent deux fois sur la figure. Et après, il faut faire attention aussi, c'est que les États-Unis, la France, les pays occidentaux, ils instrumentalisent aussi la question pour critiquer la Chine. Mais eux-mêmes, ils sont responsables de choses tout aussi pourries et dégueulasses. Quand vous regardez l'histoire de l'impérialisme français, la manière dont ils ont traité les populations qui colonisaient l'Afrique, les colonies en Afrique et tout le reste, l'impérialisme américain et le sort des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas une spécificité chinoise, l'oppression des peuples, c'est tous les États bourgeois qui pratiquent ça, et la nécessité de la révolution sociale, elle s'exprime par là aussi.